Je vous le certifie, mes frères, la bonne nouvelle que j'ai annoncée pour ma part n'est pas simplement humaine, car moi-même je ne l'ai pas reçue ni apprise d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez en effet entendu parler de la façon dont je me conduisais autrefois dans le judaïsme. Je persécutais alors à outrance l'Église de Dieu et je m'acharnais contre elle. Dans le judaïsme, je progressais mieux que beaucoup de juifs de mon âge, car je débordais d'une passion jalouse pour les traditions de mes pères. Mais quand il a plu à Dieu, qui m'a mis à part depuis le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce comme une bonne nouvelle parmi les non-juifs, aussitôt, sans consulter personne, sans même monter à Jérusalem pour voir ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis partie pour l'Arabie, puis je suis retournée à Damas. 3 ans plus tard, je suis montée à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et j'ai demeuré 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre des apôtres, sinon Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, je le dis devant Dieu, je ne mens pas. Je me suis ensuite rendue dans les contrées de Syrie et de Cilicie. Quant aux églises de Judée, celles qui sont dans le Christ, elles ne me connaissaient pas personnellement. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant comme une bonne nouvelle la foi contre laquelle il s'acharnait. » Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Ensuite, 14 ans plus tard, je suis remontée à Jérusalem avec Barnabé et j'ai aussi pris Tite avec moi. J'y suis montée par suite d'une révélation. Je leur ai exposé la bonne nouvelle que je proclame parmi les non-juifs. Je l'ai exposée en privé, aux gens les plus considérés, de peur de courir et d'avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, n'a même pas été contraint de se faire circoncire. Tout cela à cause des faux frères, des intrus, qui s'étaient introduits parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. À cela, nous n'avons pas cédé un seul instant. Nous ne nous sommes pas soumis, afin que la vérité de la bonne nouvelle demeure pour vous. Quant à ceux qui étaient considérés comme des gens importants, ce qu'ils étaient autrefois m'est bien égal. Dieu n'est pas partial. Ces gens considérés ne m'ont rien imposé. Au contraire, lorsqu'ils ont vu que la bonne nouvelle m'avait été confiée pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui avait été à l'œuvre en Pierre pour l'apostolat auprès des circoncis avait aussi été à l'œuvre en moi auprès des non-juifs. Et lorsqu'ils ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée, alors Jacques, Céphas et Jean, qui étaient considérés comme des colonnes, nous ont donné la main droite à Barnabé et à moi en signe de communion. Nous irions, nous vers les non-juifs et eux vers les circoncis. Nous devions seulement nous souvenir des pauvres, ce que j'ai fait avec empressement. Mais lorsque Céphas est venu à Antioche, je me suis opposée à lui ouvertement, parce qu'il avait tort. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, il mangeait avec les non-juifs. Mais après leur venue, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Les autres juifs aussi sont entrés dans ce jeu, au point que Barnabé lui-même s'est laissé entraîner par leur double jeu. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit au regard de la vérité de la bonne nouvelle, j'ai dit à Céphas devant tout le monde, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, comment peux-tu contraindre les non-juifs à adopter les coutumes juives ?»
On vit dans une culture où on veut avoir le choix et où on aime avoir le choix. Et d'ailleurs, on a déjà eu l'occasion d'en parler il y a pas très longtemps en étudiant le livre de l'Ecclésiaste. Alors, une bonne illustration de ce principe où on aime avoir le choix, c'est le zapping. Je suis prêt à regarder un programme s'il retient mon attention. Et si ça marche, c'est encore mieux. Je suis désolé, au niveau technique, ce soir, ce n'est pas notre soirée. On va y arriver. Je suis prêt à regarder un programme s'il retient mon attention. Mais je garde le doigt sur la télécommande, comme ça je peux zapper à n'importe quel moment s'ils n'arrivent pas à me capter mon attention dans les 5 secondes qui suivent, je peux toujours regarder autre chose, puis je peux revenir, etc. Et parfois, il faut reconnaître qu'avoir le choix, c'est une très bonne chose. Heureusement que nous avons des choix dans la vie. Mais il arrive aussi que nous n'ayons pas le choix, ou bien des situations où, en fait, il ne faut surtout pas faire le mauvais choix. Il y a quand même certaines choses qui s'imposent à nous. Alors, je donne un exemple, je pourrais en donner plein d'autres, mais si je vais chercher ma fille de 2 ans chez sa nounou, jamais je me suis dit, tiens, quel enfant je vais ramener à la maison ce soir ? Il n'y a qu'une seule possibilité, c'est ma fille que je vais chercher. Je ne me dis pas, il y a le petit de 3 ans, il y a le bébé, jamais. Non seulement ça serait illogique de prendre avec moi un autre enfant, mais ça serait même criminel. On étudie depuis la semaine dernière la lettre aux Galates, donc écrite par l'apôtre Paul. Paul est parfois accusé d'être quelqu'un d'absolument inflexible, d'être un peu un psychorigide. Et en fait, quand on étudie attentivement ces lettres ou le livre des Actes des Apôtres qui nous parle de l'apôtre Paul, on prend conscience que Paul était souvent en fait assez flexible. Flexible sur la manière, par exemple, d'annoncer la parole, d'annoncer la bonne nouvelle. Selon son auditoire, il s'adapte beaucoup dans la forme, dans l'approche. Même flexible parfois sur des questions de comment gérer certaines traditions, comment gérer les différences culturelles entre les uns et les autres. Il pouvait faire preuve d'une grande flexibilité. Mais sur le cœur du message que Paul annonce, l'évangile, là, il était absolument inflexible. Et on a commencé à le voir la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, en examinant les 10 premiers versets du chapitre 1 de cette lettre aux Galates. Pour l'apôtre Paul, la bonne nouvelle qui est au cœur de la Bible, cet évangile qui est ancré dans la mort de Jésus à la croix et dans sa résurrection, eh bien ça, c'est pas négociable. Et ce soir, on va essayer simplement de comprendre un peu mieux pourquoi. Pourquoi est-ce que l'évangile n'est pas négociable ? Et on va essayer de répondre à cette question en 3 temps. L'évangile est non négociable parce que c'est un message divin, un message unique et un message suffisant. Donc on va commencer par un message divin. L'une des affirmations très fortes au cœur de ce texte, c'est que le message que l'apôtre Paul proclame, ce n'est pas une philosophie humaine parmi d'autres, c'est un message qui vient de Dieu lui-même. Paul le dit au verset 11, si vous voulez regarder dans le texte, verset 11, « La bonne nouvelle que j'ai annoncée pour ma part n'est pas simplement humaine, car moi-même je ne l'ai pas reçue ni apprise d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Dans les philosophies humaines, il y a du bon et du moins bon. Dans les traditions humaines, même dans les traditions chrétiennes, il y a des choses à retenir, il y a des choses qu'il faut parfois savoir remettre en question. Mais Paul estime que le cœur même du message de Jésus-Christ, cette bonne nouvelle de la réconciliation que Dieu nous offre, eh bien ça ne relève pas de la philosophie ou de la tradition, mais ça vient de Dieu lui-même. Et par définition, si Dieu est Dieu, s'il est le créateur souverain et parfait, Clifford nous en a parlé tout à l'heure, ce créateur souverain et parfait que nous présente la Bible, alors on ne va pas discuter sur le message qu'il nous adresse. Ça s'impose à nous avec une autorité absolue. Alors certains pourraient dire, ouais, mais c'est un peu facile comme ça pour l'apôtre Paul de mettre fin au débat tout de suite en invoquant Dieu, en disant, bah, Dieu l'a dit, donc discutez pas. C'est vrai que parfois les croyants peuvent avoir tendance un petit peu à court-circuiter les discussions en disant, oh, mais c'est la volonté de Dieu, Dieu me l'a révélé, cherchez pas. Alors, l'histoire typique, c'est un peu comme une boutade, mais du jeune homme, ça arrive en plus. Hein. Ça arrive parfois du jeune homme qui va voir une jeune femme et qui lui dit « Dieu m'a révélé que c'était toi que j'allais épouser. » Et la jeune femme qui répond « C'est drôle parce que moi, il ne m'a pas du tout dit la même chose. » Alors, blague à part, est-ce que finalement Paul fait un petit peu ça ici ? Discutez pas, c'est Dieu qui m'a révélé ce message. Alors, il faut relever que l'apôtre Paul évoque ici une question essentielle, la plus essentielle de toutes pour un être humain. Comment connaître le Créateur ? Comment vivre en relation avec lui ? Comment être approuvé par lui ? Ensuite, il se présente, dès le début de la lettre, comme apôtre, c'est-à-dire quelqu'un qui a été envoyé par Jésus-Christ lui-même pour être son témoin. Paul dit au verset 16 que Dieu lui a révélé son Fils et a révélé en lui son Fils. Alors ici, il fait référence très clairement à la fameuse rencontre sur le chemin de Damas, rencontre qui nous est racontée notamment au chapitre 9 du livre des Actes. Paul évoque donc un événement concret. Il nous parle de quelque chose qu'il a vécu, quelque chose qui est une expérience pour lui, qu'il peut dater, qui s'est arrivé tel jour, à tel moment. Et donc là, il faut choisir. Soit Paul dit vrai, et le Christ ressuscité l'a nommément, personnellement envoyé pour être son témoin, soit Paul raconte n'importe quoi, et il invente une histoire pour imposer son autorité. Donc là, il faut choisir. Alors, il y a de très bonnes raisons historiques de croire en l'authenticité de la conversion de l'apôtre Paul. On n'a pas vraiment le temps de s'y pencher maintenant. Mais on constate en tout cas que pour Paul, le message dont il est porteur, ce n'est pas quelque chose qu'il sent, ce n'est pas un sentiment personnel, mais c'est un message qui lui a été confié par le Fils de Dieu lui-même. En lisant ce texte, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, quand Sophie en faisait la lecture, il y a une chose frappante, qui est que l'apôtre Paul donne des repères temporels très précis. Presque un peu comme un récit de voyage en quelque sorte. Alors, il nous dit qu'il a rencontré le Christ ressuscité au verset 16. Il nous dit ensuite que aussitôt il est parti pour l'Arabie, puis il est retourné à Damas, verset 17. Verset 18, 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, c'est-à-dire Pierre, et j'ai demeuré 15 jours chez lui. Chapitre 2, verset 1, 14 ans plus tard, je suis remonté à Jérusalem. On disait monté à Jérusalem parce que Jérusalem était une ville en hauteur, était élevée sur des collines. C'est très précis. Pourquoi est-ce que Paul prend le soin de détailler à ce point le récit, la chronologie de ses voyages? Eh bien, la réponse vient très probablement du fait qu'on accusait Paul d'avoir tout appris des autres apôtres, ceux qui avaient suivi Jésus pendant son ministère terrestre, en particulier Jacques, Pierre et Jean, des apôtres historiques, donc, qui étaient très estimés, très bien considérés par la première génération chrétienne, et notamment par les chrétiens d'origine juive. Et l'accusation qu'on amenait contre Paul, c'était qu'il aurait, si vous me permettez l'expression, pompé son message sur eux, et qu'au passage, il l'a modifié, en enlevant les références à, selon eux, hein, selon ses accusateurs, en enlevant les références à la loi de Moïse, etc. Et Paul répond qu'au contraire, il n'a pas beaucoup fréquenté ces apôtres de Jérusalem, et la première fois, c'était seulement 3 ans après sa conversion. Et encore, il n'a rencontré que Pierre et Jacques à ce moment-là, il n'a passé que 15 jours là-bas, verset 18. Et ensuite, c'est seulement 14 ans plus tard, alors peut-être 14 ans après sa conversion, que Paul est retourné à Jérusalem, chapitre 2, verset 1. Et entre-temps, il n'est pas resté les bras croisés à attendre que ses apôtres puissent l'instruire. Il a eu un ministère très actif dans les régions de Syrie et de Cilicie. On voit ça au verset 22. Donc Paul indique ces détails pour bien souligner qu'il n'a pas eu besoin de Pierre, de Jacques et de Jean pour comprendre la bonne nouvelle, ni pour annoncer la bonne nouvelle. C'est Jésus-Christ lui-même qui l'a envoyé en mission. Donc vous voyez qu'on revient à cette affirmation forte que cette mission, il l'a reçue directement de Jésus-Christ. Et ce message que Paul transmet, centré sur la liberté nouvelle qu'on trouve en Jésus-Christ, en raison de ce qu'il a fait pour nous à la croix, eh bien c'est un message que Dieu a voulu communiquer à son Église. Si Dieu vous confie un message, et qu'il le fait en plus comme pour Paul, avec une révélation visible cette expérience extraordinairement forte qu'il a vécue, ça s'impose à vous. Vous devez annoncer ce message qui vient de Dieu lui-même. Si l'Évangile est un message qui vient de Dieu lui-même, on comprend que pour l'apôtre Paul, c'est très grave de le rejeter. D'autant plus qu'il n'y a pas plusieurs bonnes nouvelles disponibles, il n'y en a qu'une seule. Et c'est une autre chose sur laquelle l'apôtre Paul va insister, un message unique. On vient de le voir, Paul n'a pas eu besoin de Pierre, Jacques et Jean pour devenir l'apôtre de Jésus-Christ, pour devenir l'envoyé de Jésus-Christ. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il ne s'intéresse pas à eux, ça ne veut pas dire qu'il ne les respecte pas et qu'il ne prend pas en considération leur point de vue. Au contraire, il insiste sur le fait qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre son message et celui que proclament Pierre, Jacques et Jean et les autres. Ils font partie de la même mission. Paul souligne ça au verset 24 lorsqu'il dit que les églises de Judée, c'est-à-dire en gros les églises d'Israël, qui étaient conduites à l'époque par Jacques en particulier, Pierre et Jean, ces églises glorifiaient Dieu au sujet de Paul. C'est ce qu'il dit dans le texte, elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Autrement dit, ces chrétiens juifs, ils remerciaient Dieu. Toutes ces années, ils ont remercié Dieu pour mon ministère. Au chapitre 2, verset 2, Paul souligne qu'il a pris soin en plus d'aller parler avec les apôtres de Jérusalem pour s'assurer qu'ils étaient bien en phase. Il a pris ce temps et la conclusion, c'est qu'ils étaient bien en phase. Ensuite, au verset 9, Paul affirme que les apôtres Jacques, Pierre et Jean, qui étaient considérés comme des colonnes, dit-il, dans l'Église naissante, lui ont donné la main droite en signe de communion. Autrement dit, ils ont manifesté symboliquement leur pleine solidarité avec Paul. Donc, c'est assez fin ce qu'on voit dans ce texte, parce que l'apôtre Paul dit d'une part, c'est pas eux qui m'ont transmis l'évangile, je l'ai reçu de Jésus-Christ lui-même. Et d'autre part, il dit, mais nous faisons le même travail, on fait partie de la même mission, il n'y a pas de désaccord entre nous, il n'y a pas de différence entre l'évangile que je prêche et l'évangile qu'il prêche. Pourquoi ce double argument dans la défense de Paul? Ça paraît presque en tension, ces deux choses. D'un côté, j'ai pas eu besoin d'eux, c'est Dieu lui-même qui m'a confié ce message. Et d'autre côté, mais c'est le même message et on est en phase. Imaginez un patron qui envoie quatre de ses cadres en mission dans une boîte cliente. Ils ont chacun, ces quatre, ils ont chacun leur style et leur méthode. Mais il n'y a pas de problème entre eux. Ils sont là pour accomplir le même travail, pour les mêmes objectifs. Mais chez ce client, il y a seulement trois d'entre eux qui sont respectés, qui sont écoutés, parce qu'ils sont déjà connus, parce qu'ils ont une certaine ancienneté, on les a déjà vus là. Par contre, le quatrième, alors lui, on ne veut pas l'entendre, on le méprise. Et pire, on l'accuse d'être un imposteur, on laisse entendre qu'il n'a pas vraiment été mandaté par le patron, et en plus qu'il a modifié le contenu de la mission à sa guise. Si vous êtes ce quatrième cadre, vous allez protester. D'une part, que vous avez bien été mandaté par le patron, au même titre que les autres, et d'autre part, que même si votre approche est peut-être différente dans la forme, vos objectifs sont les mêmes et il y a une pleine solidarité entre vos collègues et vous. C'est un petit peu ça qui se passe ici. Il est probable que certains aient accusé l'apôtre Paul en disant en gros, mais l'apôtre Paul, ce type, il ne connaissait même pas Jésus. Alors, sans parler du fait que c'était le persécuteur de l'Église avant, des chrétiens. Il doit tout à Pierre, Jacques et Jean. Et maintenant, il se permet de dire aux non-juifs que la circoncision, ce n'est pas si important, que la loi de Moïse, ce n'est pas ça qui est essentiel. Mais pour qui il se prend? Et donc, Paul se défend vigoureusement. Et on voit au fil du texte que Paul ne se défend pas pour se mettre les galates dans la poche ou pour soigner son image de marque. On le voit parce qu'il n'hésite pas à les brusquer et même à dire des choses très dures contre eux par ailleurs. Non, il se défend parce que pour lui, l'enjeu est immense. Parce que pour lui, si on s'attaque à son message, au message dont il est simplement le messager, le vecteur, c'est à l'évangile qu'on s'attaque. C'est à Dieu qu'on s'attaque. Il sait que Jésus-Christ l'a envoyé personnellement pour proclamer l'évangile aux non-juifs. Et cet évangile, comme il l'écrira dans sa lettre aux Romains, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et donc dénaturer ce message puissant et salvateur qui vient de Dieu lui-même, c'est très grave. Voilà pourquoi Paul répond aussi vigoureusement à ses détracteurs, à ceux qui l'accusent. Non, il ne prêche pas une version modifiée de l'évangile. Il prêche l'unique évangile qui ne vient ni de lui, ni de Pierre, ni de Jacques, ni de Jean, ni des autres, mais qui vient de Dieu lui-même. Et pour Paul, l'enjeu de ce message est tellement immense que c'est gravissime de s'en détourner. Et là, on arrive au cœur de la problématique de cette lettre aux Galates. Et on va commencer à l'aborder dans ce troisième et dernier point. Et puis dans les dimanches qui suivent, bien sûr, on aura l'occasion d'y revenir. Un message suffisant. Alors, arrivé au verset 10, tout se passe bien. Paul a peut-être rassuré les Galates. Il a insisté sur l'authenticité de l'évangile qu'il proclame. Il a insisté sur son unité avec les autres apôtres. Et puis là, au verset 11, patatras, tout d'un coup, il se met à critiquer Pierre assez durement et à raconter un conflit qu'il a eu avec lui. Là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui prend? Et où est passé le conseiller en communication de Paul? Il vient de dire qu'il n'est pas un imposteur, qu'il n'est pas un franc-tireur, qu'il est en plein accord avec les autres apôtres. Et puis là, bam, il nous raconte sa dispute avec Pierre, l'apôtre le plus connu, le plus respecté sans doute, celui à qui Jésus avait dit « Prends soin de mes brebis, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église ». Pourquoi est-ce que Paul raconte l'incident du verset 11? D'abord, je crois qu'il faut, s'assurer de bien comprendre ce qui s'est passé. Céphas, c'est-à-dire Pierre, est venu à Antioche, c'est ce que nous dit le verset 11. Le verset 11, désolé. Il est venu à Antioche, et lors de cette visite, il y a eu un incident. Un incident dont les premiers lecteurs de la lettre, les Galates, étaient très certainement au courant. D'ailleurs, on peut même penser que c'est cet incident qui a donné lieu à un conflit avec les Galates, et c'est pour ça que Paul leur écrit cette lettre. On peut le supposer. Donc il y a eu un incident dont les Galates étaient informés. Qu'est-ce qui s'est passé? Au début, Pierre et les autres chrétiens d'origine juive mangeaient avec les non-juifs, sans problème. Alors vous me direz, oui, quel est le problème? Il faut savoir que c'était interdit par le judaïsme. Les non-juifs étaient considérés comme impurs dans le judaïsme parce qu'ils ne suivaient pas les règles rituelles juives. Manger avec un non-juif, c'était pas tellement une question de racisme, même si ça pouvait mener au racisme, mais c'était en quelque sorte mélanger le sacré et le profane. C'était compromettre la vocation d'Israël d'être un peuple exclusivement consacré à Dieu. Mais on voit dans le livre des Actes que Jésus lui-même a révélé à Pierre que les non-juifs étaient désormais pleinement invités, pleinement inclus dans le peuple de Dieu, et que cette notion d'impureté rituelle, elle n'avait plus lieu d'être. La seule chose décisive pour faire partie du peuple de Dieu, c'est de recevoir par la foi le salut offert en Jésus-Christ. Pierre avait bien compris cela, et c'est pour ça qu'il mangeait sans problème avec les non-juifs. Mais quelques personnes de l'entourage de Jacques, verset 12, soit dit en passant, ça ne veut pas dire que Jacques les avait envoyés. On voit plutôt avant dans le texte que Jacques était en phase avec Paul. Mais des gens de l'entourage de Jacques sont venus en disant sans doute à peu près ceci. Que des non-juifs se tournent vers Jésus, d'accord, c'est bien. Mais dans ce cas, il faut quand même qu'ils se conforment à nos règles rituelles. La circoncision, les lois alimentaires. Attendez les gars, il ne faut pas non plus oublier tout ça. Et s'ils ne le font pas, ben on n'a pas à manger avec eux. Ils sont rituellement impurs. Et là, face à cette pression, Pierre se laisse intimider. Il ne veut sans doute pas donner l'impression d'être laxiste. Fin du verset 12, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart. Et là, pour Paul, c'est grave. C'est tellement grave qu'il ne va pas hésiter à reprendre Pierre publiquement. Et là encore, fallait oser. Pierre, ce n'était pas n'importe qui. Mais Paul estime qu'en refusant de manger avec des non-juifs, de manger déjà tout court, mais aussi sans doute c'était les repas où on célébrait la Sainte-Cène, où on prenait le pain et le vin en souvenir de ce que Jésus a fait, de refuser donc de manger avec les non-juifs, c'était toucher au cœur même de la bonne nouvelle de Jésus. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on dit si on estime que quelqu'un doit accomplir des rituels religieux pour être pur, pour être pur devant Dieu et pour être pur au sein du peuple de Dieu? Qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on dit ça? Ben on dit que finalement, Jésus n'est pas vraiment mort pour nos péchés à la croix. Il ne nous a pas vraiment purifiés, puisqu'il faut encore se purifier rituellement. On dit que son sacrifice n'est finalement pas totalement suffisant. Il faut encore y ajouter d'autres choses pour être en règle avec Dieu. Le message de l'Évangile, c'est l'intervention souveraine de Dieu pour déclarer juste et déclarer pur des personnes qui ne sont pas justes en elles-mêmes, qui ne sont pas pures en elles-mêmes. C'est le pardon plein et définitif des pécheurs. C'est par ce sacrifice que Jésus a réglé lui-même la dette infinie que nous avions envers Dieu, le Père. Et donc dire qu'on doit obéir, qu'on doit accomplir des règles religieuses et rituelles pour se purifier et pour être authentiquement chrétien et pour pouvoir être dans le peuple de Dieu, c'est grave. En fait, c'est comme, imaginez qu'on vous fait un cadeau et que vous insistez pour payer. Vous refusez de l'accepter comme un cadeau, on vous dit « non, c'est à toi, je te le donne ». « Non, attends, je vais payer ». Peut-être que vous avez l'impression d'être super rigoureux et en fait de faire de rendre service à la personne, mais qu'est-ce que vous faites en réalité, vous insultez la personne. C'est insultant lorsqu'on refuse un cadeau et lorsqu'on insiste pour le payer. Et bien, en ce qui concerne l'Évangile, lorsqu'on fait cela, c'est Dieu qu'on insulte. C'est Dieu qu'on insulte lorsqu'on lui dit « Ouais, c'est bien le sacrifice de Jésus sur la croix, mais attends, il faut encore que je fasse mes ablutions rituelles, il faut encore que je sois circoncis, il faut encore que ceci, que cela. » Non, la pureté, la véritable pureté, c'est Jésus qui l'a opéré dans notre cœur. Voilà pourquoi Paul réagit si radicalement. Pour lui, on touche au cœur même du plan de Dieu pour sauver des hommes et des femmes pécheurs qui ne pourraient de toute façon jamais se sauver par eux-mêmes, que Dieu a choisi de sauver. Et c'est pour ça que Paul va oser reprendre Pierre publiquement et mettre en lumière son hypocrisie. Verset 14. « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, comment peux-tu contraindre les non-juifs à adopter les coutumes juives ?» Ça, vous avez compris ?« Si toi qui es juif, tu vis comme les non-juifs, et non pas comme les juifs, comment peux-tu contraindre les non-juifs à adopter les coutumes juives ?» Pierre avait compris que même lui, juif de naissance, il pouvait vivre librement à l'égard de la loi rituelle juive. Ça ne veut pas dire qu'il méprisait la tradition juive. C'est pas ça la question. Mais il pouvait vivre librement à l'égard de tout cela, parce que ce n'est pas cette loi qui fait de lui injuste aux yeux de Dieu. Pierre avait compris cela. On le voit dans le livre des Actes, par exemple. Il l'avait bien compris. Mais la mort de Jésus à sa place sur la croix, c'est cela qui l'a purifié. Mais voilà que maintenant, sous la pression de certains, il laisse entendre que oui, c'est peut-être quand même bien si les non-juifs ils se purifient ou ils se fassent circoncire si c'est des hommes, pour pouvoir être en présence des juifs. Pour Paul, c'est insupportable. L'évangile est pleinement suffisant. Dieu n'a pas fait la moitié du chemin pour nous pardonner, il a fait le chemin tout entier. On n'a plus qu'à recevoir ce pardon. Un pardon qui, si nous l'avons saisi, va changer nos vies et va nous pousser librement à vivre une vie qui plaît à Dieu, à rechercher la pureté véritable, la pureté de la conscience, la pureté du cœur. Alors aujourd'hui, dans notre contexte, on est loin de cette controverse entre chrétiens d'origine juive et non-juive sur la question de la circoncision. Je suis sûr que vous n'avez jamais parlé de ce problème-là, autre qu'en parlant de ce que disent les textes bibliques. Et je pense que personne ici ne refuserait de manger avec quelqu'un d'autre, en tout cas je l'espère. Mais ce texte est quand même d'une actualité brûlante. Parce qu'en fait, il touche à deux questions décisives pour chacun d'entre nous. La première, c'est qu'est-ce qui me rend acceptable pour Dieu ? Qu'est-ce qui me rend acceptable ? Qu'est-ce qui fait que Dieu va s'intéresser à moi et approuver ma vie ? Je rejoins ce que Clifford disait au début de sa présidence. Est-ce que c'est le fait de vivre d'une manière droite, d'éviter l'immoralité, d'éviter les grossièretés, par exemple ? Le fait d'être engagé dans l'Église, le fait de m'efforcer d'aimer les autres. Est-ce que c'est ça qui fait que Dieu va dire « Ah ouais, j'approuve ». Non. Alors ces choses sont bonnes, elles sont importantes, mais ce ne sont pas elles qui font que Dieu m'accepte. Dieu m'accepte parce que Jésus est mort pour le pécheur que je suis. Point, barre. Voilà pourquoi Dieu m'accepte. Il n'y a rien que je puisse ajouter et il n'y a rien que je puisse enlever à ce que Jésus a fait pour moi. La bonne nouvelle, elle est pleinement suffisante. Maintenant, la deuxième question décisive, c'est qu'est-ce qui me permet d'avoir ma place dans la communauté chrétienne ? Est-ce que c'est parce que je connais bien ma Bible ? Est-ce que c'est parce que je suis gentil ? Parce que j'ai des affinités avec les gens de cette église ? Parce que je témoigne de ma foi ? Ou parce que peut-être avant, je vivais... pas dans la conformité à ce que dit la Bible, mais maintenant j'essaye, etc. Non. Ces choses ont leur importance. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas vivre une vie droite Ces choses ont leur importance. Mais ce qui peut me permettre de trouver vraiment ma place dans cette communauté, de manière profonde et authentique, c'est que j'ai donné ma vie au Seigneur et Sauveur qui la dirige. Alors certains ici ce soir sans doute n'ont pas encore fait cette démarche et je veux être clair, bien entendu, vous êtes les bienvenus. Et cette église, elle est là pour vous aussi. Et cette rencontre, elle a même été pensée à l'origine en particulier pour les personnes encore en recherche. Elle est là pour tout le monde, mais elle a été aussi pensée en particulier pour ces personnes-là. Mais en même temps, il faut être conscient que la véritable communion que Jésus-Christ nous invite à vivre, elle ne peut être vécue que par la foi en lui. Or, personne ici ne peut se prévaloir d'autre chose pour plaire à Dieu que la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection au troisième jour. Voilà notre espérance, voilà ce qui nous unit, voilà notre vie. Amen.